des hommes, des femmes vous parlent sur Canal Académie.
Parcours. Une émission de la rédaction de Canal Académie.
Parcours avec ses découvertes, ses expériences, ses échecs et ses richesses.
On retrouve Axel Mauger.
Je suis très heureux aujourd'hui de recevoir le professeur Jean Bastier, qui est le président de la Société de géographie et dont la Société a publié un excellent numéro spécial sur un grand personnage de la géographie mondiale, aujourd'hui décédé, mais qui s'appelle « L'orbite de la géographie » de Jean Gottman, et donc publié à la Société de géographie, évidemment. Donc c'est un livre très important, c'est un personnage très important que Jean Gottman, parce que, avec Pierre Georges, on peut dire que ce sont les deux grands géographes de la deuxième partie du XXe siècle. Il est disparu, je rappelle, en 1994. Alors, avant de m'entretenir avec le professeur Jean Bastier de Jean Gottman, présentons rapidement le professeur Jean Bastier, qui est lui aussi un excellent géographe, agrégation de géographie, doctorat ès-lettres, professeur à Paris 4 longtemps à la Sorbonne de 1972 à 1988, président depuis 1995 de la Société de géographie, qui l'a fait énormément progresser, dont le rayonnement est important aujourd'hui, très important. C'est la plus ancienne association française. Président d'honneur, bien sûr, de très nombreuses autres sociétés de géographie. Et j'en passe et j'en passe. N'oublions pas quand même certains de ses travaux importants, comme Paris en l'an 2000, livre publié en 1964, La croissance de la banlieue française publié aussi en 1964, et j'en arrive à deux derniers livres, ou deux livres importants, qui s'appellent La géographie du Grand Paris en 1984 et Histoire de Paris 1945 jusqu'à 2000, publié en 2001. Une carrière magnifique, et le professeur Jean Bastier ne s'intéresse pas seulement à sa carrière, il s'intéresse énormément à celle des autres, et donc je suis particulièrement heureux, professeur Bastier, de vous recevoir aujourd'hui pour évoquer cette grande figure de la géographie mondiale qui s'appelle Jean Gottman. Je rappelle la naissance 1915 et la disparition en 1994. Alors, cher professeur Bastier, j'ai déjà eu le privilège de vous recevoir ici à Canal Académie. Qui est ce Jean Gottman? Pourriez-vous un peu me parler de son enfance, par exemple, déjà pour le situer auprès de nos auditeurs, nos nombreux auditeurs?
Alors, le professeur Jean Gottman n'était pas français de naissance. Il est né ukrainien à Kharkov en 1915. Il appartenait à une famille assez aisée, puisque son grand-père a été le constructeur, si l'on peut dire, des chemins de fer ukrainiens, dont une famille dotée d'une certaine richesse.
Ah oui, 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 tout à fait.
Mais la révolution de 1917 est arrivée alors qu'il n'avait que 2 ans. Ses parents ont été pratiquement révolvérisés sous ses yeux.
Oh là là.
Et il a été sauvé par un grand-père et un oncle, qui ont réussi à lui faire quitter l'Ukraine et à le faire venir à Paris.
Ah, direct. Donc il est arrivé à Paris.
Oui, par Istanbul, jeune. Comme ouais, beaucoup de Russes blancs, etc. La Méditerranée, il est arrivé très jeune à Paris, il avait peut-être 3 ou 4 ans, mais, où il avait d'ailleurs des oncles et des tantes qui se sont occupés de lui, qui ont remplacé ses parents, et il a fait toutes ses études en France. Enseignement secondaire, enseignement supérieur, jusqu'à la guerre de 1940.
Donc la formation est française
jusqu'en 1940. Sa formation est totalement française jusqu'en 1940, 41 même. Et il a fait de brillantes études. C'était un étudiant remarquable. Il a été tout de suite distingué par les deux plus grands géographes qui enseignaient à la Sorbonne, oui. En géographie physique, Emmanuel de Martonne, et en géographie humaine, Albert de Mangeon, qui, hélas, est mort en juin 40, le jour où les Allemands ont pénétré dans Paris. Mais lui avait eu le temps, il avait donc, en 40, il avait donc 26 ans.
Tout à fait.
Entre-temps, il avait déjà pas mal voyagé. Il était allé en Palestine, notamment, passer un an pour étudier les problèmes d'irrigation en Palestine, tant du côté des Palestiniens, des Arabes palestiniens, que du côté des premières colonies israélites qui commençaient à s'installer en Palestine dès avant 1914 et à plus forte raison durant l'entre-deux-guerres. Donc il avait déjà une petite expérience internationale.
Un homme de terrain.
Voilà. Il avait s'est beaucoup impliqué aussi dans une étude, à la suite de longues enquêtes minutieuses organisées par de Mangeon, sur l'agriculture française. Dire qu'au départ, il n'était pas destiné à s'intéresser spécialement aux villes, ce qui a été pourtant le cas dans la suite de sa carrière. Assez éclectique en matière de...
Il a réussi très vite à passer à autre chose.
À autre chose, parce qu'il a compris que l'événement le plus important du XXe siècle, c'était la croissance urbaine, évidemment, aussi bien en Europe et encore plus aux États-Unis.
Dois dire juste un petit mot, cher professeur Bastier. Vous avez écrit un article dans ce très beau numéro spécial, L'orbite de la géographie de Jean Gottman, donc à la Société de géographie. Vous avez écrit un très bel article qui s'appelle Jean Gottman, l'homme et l'ami. Et je l'ai lu avec beaucoup d'intérêt, avec minutieusement, si vous voulez. Et j'ai été frappé par bien des expressions que vous avez utilisées, notamment sur ce phénomène de la grande culture, et vous disiez sa gentillesse, sa courtoisie, son extrême tolérance.
Oui.
Et ça, la question que je me pose parfois aussi comme universitaire, et que vous êtes certainement posé plus d'une fois, c'est que justement, aujourd'hui, est-ce que notre univers culturel n'est pas parfois un peu affadi par rapport à cette grande époque où des personnalités d'exception sortaient quand même facilement? C'est vrai qu'il y en a aussi aujourd'hui, donc il ne faut pas... Mais retrouve-t-on autant qu'à cette époque, souvenons-nous de nos maîtres, respectifs, qui étaient des gens souvent, justement, qui étaient souvent des gens gentils, pas toujours, mais souvent gentils, courtois, ils l'étaient souvent, et d'une grande tolérance aussi. Et ce sont des termes, je trouve, quand même, on utilise moins ces termes aujourd'hui en disant il est gentil ou il est courtois. Et est-ce que c'est une époque qui est révolue ou pas?
Oh, écoutez, il ne faut pas se laisser gagner par le complexe de la belle époque. Dans le passé, il y a toujours eu une belle époque.
Une belle époque.
Je ne veux pas entrer dans ce débat parce qu'il faudrait nuancer beaucoup et ça nous amènerait très loin.
Et puis nos auditeurs ont compris que vous étiez un homme optimiste et tourné vers l'avenir.
Peut-être.
Si, certainement.
Étant donné mon grand âge, je ne serai pas impartial. Je ne serai pas suffisamment impartial. Donc, non. Prenons les choses comme elles sont. Gottman a connu des époques que nous ne connaîtrons pas, nous-mêmes. Bien qu'entre lui et moi, il n'y avait pas une grande différence d'âge, mais quand même.
Et alors, quel a été...
C'était un homme dont je conserve un souvenir très, très vivant, très précis, parce que je l'ai vu maintes fois dans maintes situations différentes. Je l'ai rencontré dans tous les pays du monde, vis-à-vis d'interlocuteurs de toute nationalité. Et moi, c'est ce qui m'a frappé, cette tolérance d'un homme qui avait eu quand même une vie assez extraordinaire et surtout qui avait souffert dans sa vie.
Cruel au départ.
Parce qu'il a dû fuir son pays dans lequel il n'est jamais revenu. Je tiens à préciser qu'il n'a jamais voulu revenir à Nurs. Et pourtant, Dieu sait qu'à la fin de sa vie, il avait été invité bien souvent à y revenir. Ouais, il n'a jamais voulu y revenir.
Il devait y avoir quand même une peur.
C'était une question de principe. Il ne voulait pas revenir là où il avait vécu les jours les plus affreux de sa vie. Mais bien qu'il fût très jeune à l'époque, avait 2-3 ans.
Quelle est sa carrière universitaire?
Sa carrière universitaire, à mon avis, est extraordinaire et unique au monde, au moins dans cette seconde moitié du XXe siècle. Vous avez très bien fait de dire que, d'ailleurs, c'est moi qui vous l'ai dit, à mon sens, il y a eu deux grands géographes au cours de cette seconde moitié, entre 1950 et 2000, ce furent Jean Godman, dont nous venons de parler, nous venons d'indiquer ses origines, nous parlerons tout à l'heure de ce que fut sa vie, et Pierre Georges, qui était français, lui né à Paris, mais qui a fait également le second géographe le plus connu dans le monde pendant un demi-siècle. Parce qu'il a écrit de nombreux livres, comme Jean Godman, ses livres ont été traduits dans de multiples langues, et quand même il est assez flatteur pour nous, Français, de constater que les deux grands géographes de cette seconde moitié du XXe siècle étaient l'un tout à fait français et l'autre français d'adoption.
Oui, vous voyez,
je veux parler de Jean Godman. Certes, Jean Godman faisait des conférences non seulement en français, mais en anglais et dans d'autres langues à travers le monde. Mais enfin, il était français de cœur, je crois pouvoir le dire. D'ailleurs, il a donné sa bibliothèque, ses archives, sa correspondance, ses papiers sont à Paris. Ah, ils ne sont ni aux États-Unis, ni en Grande-Bretagne, ni au Japon. Il les a déposés à Paris, à la Bibliothèque nationale, où on peut consulter.
Donc il y a un fonds Jean Godman
à la Bibliothèque nationale. Et ce fonds Jean Godman, s'il est à la Bibliothèque nationale, c'est aussi parce que notre société de géographie a beaucoup contribué aussi à cette chose-là. Et notamment mon prédécesseur, Jacqueline Bougegarnier, qui a beaucoup fait pour que le fonds Jean Godman reste en France.
C'est un fonds qui est très important.
Assez important. Vous pensez, il avait des correspondances avec des foules de gens très connus, avec lesquels il avait noué des liens au cours de sa vie. Et puis ses archives, ses dossiers, c'était un homme
très...
Il
est l'auteur de combien de livres en tout,
Tellement de livres. Il a écrit beaucoup d'articles aussi. Et puis il a fait des conférences dans tous les pays du monde. Et puis il a écrit quelques livres qui ont marqué, et notamment celui qui est le plus marqué, c'est le fameux Mégalopolis, qui est l'étude de la mégalopole états-unienne, qui va de Boston à Philadelphie et Baltimore et Washington, et en passant par New York, la mégalopole américaine, c'est la première étude précise d'une mégalopole qui ait jamais été écrite.
C'était la première fois
qu'on traitait d'une mégalopole de cette taille dans un ouvrage très documenté, résultant d'enquêtes précises faites par le terrain, d'une documentation considérable que Jean Godman avait su réunir et ensuite interpréter.
Oui, tout à fait.
Et donc c'est l'ouvrage qu'il a fait le plus... Mais il a écrit aussi d'autres ouvrages sur la Virginie, sur les matières premières, sur... Je parlais de la géographie de l'espace rural français, qui a été un de ses thèmes de jeunesse, sous la direction d'Albert de Mangeon, et bien d'autres thèmes qu'il a traités. Mais enfin, l'ouvrage majeur qu'il a fait connaître à travers le monde, c'est cette mégalopolis.
Mégalopolis, en 1961.
En 1961. Et il a fallu un certain temps pour la préparer, la rédiger, après la guerre. Mais en 61, ça a été une sorte de révolution dans la géographie urbaine mondiale que la publication de cet ouvrage Mégalopolis.
Chers auditeurs, nous nous retrouvons dans un instant avec le professeur Jean Bastier, président de la Société de géographie, pour continuer d'évoquer le grand géographe Jean Godman.
Jean-Luc Pinceau, le créateur de la troupe du Petit Miroir, spécialisée dans le théâtre des marionnettes chinoises, est lauréat depuis le 11 juin 2007 du prix de la Fondation franco-culturelle taïwanaise. Vous êtes amateur de théâtre, venez découvrir ce théâtre très populaire à l'origine de l'opéra chinois. Depuis le XVIe siècle, à Taïwan, les marionnettes honorent les divinités. Ce théâtre cultuel est aujourd'hui un élément fort de la culture taïwanaise. Alors installez-vous confortablement, venez écouter l'émission Point de Mire et levons ensemble le rideau sur un genre théâtral qui invite au voyage. Retrouvez l'émission Point de Mire, la culture taïwanaise dans le miroir des marionnettes.
Nous reprenons cet entretien avec le... professeur Jean Bastier, président de la Société de géographie, sur cet admirable intellectuel et universitaire que fut Jean Godman. Alors, cher professeur Bastier, nous évoquions il y a quelques secondes justement Jean Godman avant cette petite pause, et Je dois dire que ce qui m'a beaucoup frappé, c'est l'expérience de cet universitaire, dès les années, rapidement, d'abord enseignant en France, ensuite aux États-Unis, après en Angleterre et aussi au Japon. Donc une expérience, plus tous les autres pays où il a donné des enseignements, mais une expérience qui est quand même déjà assez exceptionnelle en soi, qui est le lot de peu d'universitaires quand même. Qu'en pensez-vous ?
Oui, surtout à cette époque.
Surtout à cette époque.
On voyageait moins qu'aujourd'hui. Oui, beaucoup moins. Les universitaires, certes, sont toujours déplacés, notamment les géographes. Mais enfin, avoir donné des enseignements durant des périodes assez longues, à la fois dans de multiples universités américaines, japonaises, à Tsukuba, par exemple, anglaises, Edimbourg, Oxford, et à Paris, évidemment.
Est-ce que vous aviez...
Également, il allait souvent en Grèce. Vous voyez, en Italie, aussi, évidemment, Italie. Il avait beaucoup d'amis italiens, beaucoup d'amis grecs. Vous voyez, c'était vraiment...
Est-ce que vous aviez évoqué, je m'excuse, est-ce que vous aviez évoqué la façon d'enseigner selon les pays ? Est-ce qu'il y a des... Par exemple, je me souviens avoir lu dans votre texte que vous aviez été très frappé, et ayant été reçu à Oxford, de voir les conditions de vie des professeurs étaient quand même, disons-le franchement, un peu plus agréables que ce qui se passait. Il faut dire, on parlait, c'était autour de 1968,
oui,
se passait en 1970.
Vous évoquez une scène qui...
Et donc, entre, c'est vrai, le Japon, les États-Unis, la France, l'Angleterre, et l'enseignement, ce n'est pas donné tout à fait pareil. Il faut bien se le dire.
Oui, mais enfin là, je ne suis pas assez compétent pour vous comparer avec précision la manière d'enseigner dans ces différents pays. Moi, j'y suis allé pour des congrès, pour des colloques. Je suis allé à Oxford plusieurs fois, invité par Jean Godman. Bon, mais je n'ai pas assez l'expérience, aussi bien en tant qu'enseignant ou en tant qu'auditeur,
pour
comparer. Ce que je crois pouvoir vous dire, c'est que Godman, à mon sens, était parfaitement à l'aise dans tous ces pays. Je l'ai rencontré dans ces pays-là, surtout à l'occasion des congrès. Vous savez, les universitaires, surtout les géographes, fréquentent beaucoup les congrès internationaux. Et quand c'est moins important, on appelle ça un colloque. Bon, les congrès internationaux, notamment en géographie, nous avons un congrès tous les 4 ans, le plus important de tous ceux que nous fréquentons et qui a lieu chaque fois dans un pays différent. Alors, à cette occasion, je l'ai rencontré dans beaucoup de pays, Washington, Rio de Janeiro, Sydney, Tokyo, etc. Bon, je l'ai rencontré dans des tas de pays à travers le monde. Et moi, ce qui m'a frappé, c'est l'aisance avec laquelle il s'adressait à tout le monde. Les gens venaient le voir, lui poser des questions.
Il parlait combien de langues ?
Oh, il parlait, je ne sais pas moi, combien de langues ? 4 ou 5, au moins, couramment. Le français, l'anglais, l'allemand, vous voyez.
Donc vraiment un personnage très humaniste.
Il devait connaître un peu le russe, certainement. Une fois qu'il a eu quitté la Russie, je ne sais pas s'il a beaucoup pratiqué le russe, mais également il avait une expérience non universitaire des choses. Par exemple, il faut savoir qu'au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, il est revenu en France pour des raisons multiples, et pendant quelque temps, il n'a pas regagné l'université. Il a travaillé dans les premiers organismes de planification qui avaient été créés en France au lendemain de la guerre, et il a travaillé aussi au cabinet de Mendès France, par exemple.
Voyez-vous.
Bon, il avait une expérience internationale, non seulement des universités, mais des organismes internationaux.
Puis vous rappelez à un moment donné quelque chose qui est très intéressant, c'est que cet esprit quand même très théorique pouvait être pratique, comme par exemple l'idée de faire passer l'autoroute
du sud
sous Orly.
Je n'ai pas été témoin de cette expérience, mais j'ai toujours entendu dire, peu de temps après, que effectivement le passage de l'autoroute du Sud sous les pistes d'Orly, c'est lui qui en avait eu l'idée, parce qu'on était très embarrassés à l'époque, et parce que Orly avait besoin de s'étendre et l'autoroute du Sud avait besoin aussi de passer. Donc comment faire? Et il paraît, j'ai toujours entendu que c'est Godman qui a dit, mais faisons passer l'autoroute en souterrain. Par contre, une chose dont j'ai été le témoin, c'est à Oxford, où je suis allé plusieurs fois. Il était déjà directeur de l'Institut de géographie d'Oxford, ce qui est un cas unique. Il est le seul Français à avoir dirigé l'Institut de géographie d'Oxford. Ah oui, alors que sa nationalité, depuis son adolescence, était la nationalité française. Enfin, il en avait plusieurs, sans doute.
Il était aussi
citoyen américain et citoyen britannique. Mais enfin, la nationalité qu'il avait eue en premier lieu, après avoir dû quitter l'URSS, et à laquelle il tenait le plus, c'était la nationalité française. Et il était français avant tout. Mais enfin, il était aussi américain, anglais.
Un homme de l'international, citoyen du monde.
J'estime que c'est le titre qui lui convenait le mieux. Eh bien, je suis allé le voir en Oxford, et il a rénové l'Institut de géographie d'Oxford. Il s'est fait bâtisseur. Cet institut était dans un collège, dans des locaux étroits. Dès qu'il a été directeur, il a éprouvé le besoin de faire bâtir des locaux fonctionnels, spécialisés, réservés uniquement à la géographie. L'institut s'est agrandi. Il a fait bâtir non seulement des bâtiments avec des salles de cours, mais également des salles de cartographie, des salles, vous voyez.
Et votre grand regret, c'est que la France ne l'ait pas utilisé davantage.
Je ne suis pas le seul. C'est le grand regret de beaucoup de géographes français que, quelques temps après la guerre, nous n'ayons pas tout fait pour qu'ils reviennent pleinement en France, où il ne faisait que passer, mais enfin, il avait un pied-à-terre à Paris, et que l'université française ne lui ait pas offert un poste digne de lui. Ça, c'est le regret de beaucoup de géographes. Enfin, on aurait dû le prendre à la Sorbonne. Pour des circonstances sur lesquelles je ne m'étendrai pas, bon, il n'est pas revenu en France. Il a trouvé un poste à sa mesure à Oxford et évidemment, il l'a accepté. C'était évident, les Anglais lui ont offert un poste à sa mesure, alors que nous, Français, nous n'avons pas su le faire.
Et vous me racontiez que cet homme, pendant 10, 15 ou 20 ans, a partagé ses années d'enseignement, 3 mois aux États-Unis, Princeton, 3 mois à Oxford.
Pas seulement à Princeton, il allait enseigner dans diverses universités américaines, aussi bien de l'Est que de la côte Ouest ou du centre des États-Unis, vous voyez.
En Angleterre, 3 mois, et 3 mois au Japon.
Il allait au Japon, à Tsukuba, au moins une fois par an, faire quelques semaines ou un trimestre d'enseignement. Il venait à Paris parce que quand même, on l'avait nommé grâce à Fernand Braudel, que tout le monde connaît, directeur d'études à l'école pratique des hautes études, qui a changé de nom maintenant, qui est devenu l'école des hautes études en sciences sociales. Mais c'est la même chose. Bon, il a été nommé grâce à Braudel assez rapidement directeur d'études, ce qui lui a fait une raison de revenir fréquemment à Paris.
Et donc, ces travaux.
Où il avait un pied à terre.
Donc, ces travaux, cher professeur, ces travaux, ces livres ont été très bien accueillis en France.
Très bien accueillis, bien que le fameux ouvrage dont nous parlons, Mégalopolis, n'a jamais été traduit en français. Alors que les ouvrages beaucoup moins importants, écrits dans différentes langues, ont été traduits un jour ou l'autre. Celui-là, les circonstances ont fait que les Français l'ont lu dans la version anglaise, évidemment. Enfin, il n'a jamais été traduit en français. Bon, ce qui est un détail.
C'est quand même curieux,
parce qu'on a trouvé, aucun éditeur n'a été intéressé par la chose. Et nous avions là, l'ouvrage dont vous avez parlé tout à l'heure est au fond le contre rendu d'un colloque que nous avons organisé autour de la vie de Jean Godman en 2005, une dizaine d'années après son décès. Nous avons donc organisé ce colloque, et ce colloque, vous l'avez vu, d'après la table des matières, il a été international. Nous avons fait venir non seulement des Français, mais des Anglais, des Japonais, des Latino-Américains, des Américains du Nord, évidemment. Enfin, oui, c'était un colloque vraiment international qui a été organisé à Paris aussi.
Oui, tout à fait.
À Paris. Et ce ouvrage que vous avez eu est au fond le compte-rendu, le résumé de ce colloque. Vous voyez?
Un très beau colloque, je veux dire, et des articles.
Oui, en 2005, avec des articles d'auteurs de multiples nationalités. Nous avons voulu montrer le caractère international de l'œuvre de Jean Godman.
Et n'oublions pas un livre assez intéressant qui s'intitule « La Virginie au milieu du siècle », publié en 1955.
Oui, alors c'était une étude, si vous voulez, dans la lignée des thèses de géographie régionale française qui dataient de 1900 environ, 1901, 1902, les premières sont sorties, la Valachie de Martonne, la Picardie de Mangeon, qui a été le maître de Jean Godman, à son arrivée à la Sorbonne. Bon, alors, il a fait une étude comme ça de géographie totale, si vous voulez, à la fois les caractères physiques, humains, économiques d'un État américain,
Comme on le faisait beaucoup dans les régions françaises.
Voilà, comme c'était, si vous voulez, ça c'était vraiment l'une des manifestations les plus claires les plus de la géographie française, la géographie régionale. Ce qui a fait d'ailleurs l'originalité à l'époque et le prestige de la géographie française. La géographie régionale, je puis dire, à la française.
À la française, à la française. Tout à fait.
Ce qui est maintenant totalement dépassé aux yeux des jeunes générations. Et vous, c'était une sorte de géographie totale. Qui n'était pas uniquement descriptive, comme ses détracteurs le prétendent, mais qui était descriptive et explicative.
Explicative,
qui était autant explicative que descriptive.
Avant de poursuivre.
Et alors, Goodman est resté avec sa Virginie dans cette ligne.
Ah oui,
dans
d'accord.
Cette ligne. Mais après, il est passé à d'autres problèmes.
Avant de poursuivre sur ce personnage et l'œuvre de Goodman, quelle est son influence ou quelle a été son influence sur la jeunesse, justement? Comme vous disiez tout à l'heure que c'était un des deux grands géographes de la deuxième partie du XXe siècle, et l'influence sur la jeunesse est importante. Je veux dire, des travaux comme Mégalopolis ont vraiment révolutionné beaucoup de choses.
Alors, autant que je puisse en juger, parce qu'il est difficile d'avoir une vue mondiale
bien
des
sûr,
choses,
bien sûr,
il faudrait
bien
connaître
sûr,
la littérature géographique de tous les pays du monde,
absolument.
Ce qui me paraît hors de la portée de la plupart, même des géographes. Bon, mais autant que je puisse en juger, cette influence a été quand même assez nette, assez importante, parce que, à l'époque, beaucoup de géographes, non seulement en France, mais ailleurs, manquaient quand même de vue sur le reste du monde. Chacun travaillait, bien que la géographie française a été une de celles qui ont le plus essaimé à travers le monde.
Voilà.
Les Français, très tôt, ont fait des thèses sur le Brésil, sur l'Italie, évidemment, qui est le pays étranger qui a fait l'objet du plus grand nombre de thèses françaises.
Ah oui,
il y a eu plus de thèses françaises sur l'Italie, peut-être que de thèses italiennes. Enfin, il faudrait voir.
Le domaine de la géographie.
Oui, non, je parle toujours de la géographie, uniquement. Bon. Donc, il y a eu cette production française, les Français se sont intéressés à l'Indochine, évidemment, mais c'était normal, c'était un territoire, une colonie française, l'Indochine, où on a eu les thèses de Gourou, de Robuquin, etc., le Brésil, les Français ont fait des thèses sur tous les pays du monde, évidemment mais... beaucoup sur les pays d'Afrique, évidemment, l'Afrique
tout à
était
fait.
Le continent par excellence de l'influence française.
Mais alors, professeur Bastier, avec l'exemple de Goodman, qui est quand même un exemple tout à fait passionnant, intéressant et qui apporte énormément de choses, énormément de renseignements, aujourd'hui, en 2007, est-ce que notre jeunesse qui œuvre dans le domaine de la géographie est aussi extrêmement présente sur les différents continents je pose la question, est-ce que vraiment la géographie en France est-elle aussi forte qu'à cette époque des pionniers des années 50, des années 60, des années 70? Je ne me rends pas très bien compte, et nos auditeurs non plus.
Oui, alors manifestement, non. Je vous réponds non. Parce que les choses évoluent, évidemment. Le XXe siècle, et nous sommes dans le XXIe, ne ressemble pas au XIXe.
Non,
évidemment.
Bien sûr.
Bon,
bien sûr.
Le contexte est totalement différent. On peut dire, en forçant à peine le trait, que la géographie française a été, pendant un certain temps, la première du monde.
Jusqu'à quand, vous diriez?
Jusqu'à la Seconde Guerre.
Jusqu'à la Seconde,
Guerre. Ouais. Surtout à la cheville entre le 19e et le 20e siècle, c'est-à-dire la période 1880-1914.
Ah oui, tout à fait.
Encore dans l'entre-deux-guerres.
Oui.
Et avec notamment
les grandes découvertes.
Les grandes publications, les grands travaux.
Oui, oui.
Bon, la géographie. Puis les Français occupaient les postes les plus importants sur le plan international, président de l'Union géographique internationale. À partir de l'époque où cette Union géographique a été créée, à la fin du 19e, jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, plus de la moitié du temps, le président était un Français.
Ah oui, donc
ou de Martonne et d'autres.
Oui,
bon,
oui.
Le président français était à la fois président de l'institution internationale.
Très forte.
Alors ça, nous le devons aux géographes français de la fin du 19e siècle, de Vidal de Lablache, de Martonne et quelques autres. Ils étaient assez nombreux. Aucun pays n'a eu, à peu près à la même époque, un aussi grand nombre de géographes prestigieux connus dans le monde entier.
On pourrait
en énumérer une vingtaine, au moins, pour commencer. Il y en aurait encore beaucoup d'autres.
Et puis, c'est vrai qu'à cette époque...
Qui ont rayonné à travers le monde. Et puis, il faut voir que le prestige de la langue française était à l'époque tout à fait différent de ce qu'il est aujourd'hui.
Aujourd'hui,
évidemment.
Nous faisons partie du monde, de l'Europe, etc.
Écoutez, je n'ai pas besoin de vous dire ce qu'est le phénomène de la francophonie, de la non-francophonie.
Nous allons nous arrêter un petit petit instant, juste pour marquer une pause. Je suis avec le professeur Jean Bastier. Nous parlons de ce grand géographe qui s'appelle Jean Gottmann, qui est un homme, un citoyen du monde. Nous nous retrouvons dans un instant. Je vous remercie. Chers auditeurs, je continue cet entretien avec Jean Bastier, président de la Société de Géographie, qui évoque le grand géographe qui s'appelle Jean Gottmann, comme je viens de le dire, un citoyen du monde. Alors, cher Jean Bastier, la France, qui ne lui a peut-être pas offert le poste qu'il méritait, ça, vous l'avez dit tout à l'heure, a tout de même été reconnaissante et appréciée cet homme, et notamment tous ses collègues de l'Institut de Géographie, de l'association, apprécier cet homme formidable, ce meneur d'hommes, cet intellectuel novateur. Et vous lui avez quand même donné, il y a eu quelques récompenses majeures. Et je pense notamment à un doctorat d'État que vous lui avez décerné en 1969 à Nanterre, à la faculté des lettres. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cette journée extraordinaire, je crois l'avoir lu quelque part, la remise de ce doctorat d'État?
Oui, mais enfin, je vais être bref là-dessus parce que j'ai été un peu trop mêlé à cette affaire. Enfin, si vous voulez, en gros, je résume, il aurait dû être docteur de la Sorbonne, fait docteur à la Sorbonne. Bon, pour des raisons multiples et variées, ça n'a pas été possible. Bon, pour des raisons multiples, ça aurait été possible. Enfin, pour un certain nombre de raisons, d'obstacles, de personnes, ça n'a pas été possible d'en faire un docteur de la Sorbonne. Donc, moi, j'ai lui offert la solution de remplacement de le faire docteur à Nanterre. Bon, Nanterre était université en nouvelle, pointe, en flèche, nouvelle, symbolisait la jeunesse, tout ça. Ça lui a plu, parce que c'était un innovateur, Gottmann, et c'était pas un conservateur.
Il ne regardait pas en arrière.
Non, il voyait largement en avant. Il était innovateur. Donc, cette idée d'être fait docteur à Nanterre et non pas à la Sorbonne, ça lui a plu. Donc, j'ai poussé les feux et nous sommes partis dans cette entreprise. Évidemment, donc il était tout à fait concentré. Alors j'ai réussi à Nanterre à organiser, c'était juste avant les grandes vacances, une année, fin juin, je dois donner l'année exactement dans le livre, c'était vers 1969, c'est ça, 1969. Ben oui, un an après, à peine, donc, vous voyez, on a mis un an pour organiser ça, c'était déjà pas mal pour l'époque. Parce que l'université n'est pas réputée pour sa rapidité, vous savez, ni encore moins à cette époque. Bon, nous avons réussi à organiser son doctorat. C'était une formalité, évidemment. Enfin, il fallait donner. Alors, j'ai réuni un jury dans lequel j'avais mis au moins 15 personnes.
Et qui étaient les membres les plus prestigieux?
Tous les grands géographes parisiens qui ont accepté de venir, pas de gré ou de force, j'allais dire, mais enfin, de gré quand même, ils ont accepté de venir. Donc j'avais composé un jury, d'abord avec tous les professeurs de Nanterre, on était déjà 6 ou 7, et puis autant de gens de la Sorbonne et de province.
Ah, les gens de la Sorbonne se sont déplacés?
Oui, quand même, ils sont venus, notamment, il avait quand même des amis à la Sorbonne. Bon. Donc on les a réunis avec des provinciaux aussi, j'avais réuni un énorme jury, j'avais fait venir toutes ces productions que j'avais disposées en pile sur la table du jury. Ça faisait une pile, deux piles qui avaient 1 mètre de haut chacune, au moins, voyez-vous, pour prouver qu'il avait publié, évidemment. Et il est venu, mais il jouait le jeu, évidemment. Il a joué tout à fait le jeu. Et nous avons fait une soutenance. En réalité, on aurait dû inverser les rôles, c'est-à-dire qu'il aurait dû faire le jury à lui tout seul, et c'est les membres du jury qui auraient dû passer devant lui. Bon, mais enfin, on a inversé.
Il s'est prêté au jeu.
Il s'est prêté au jeu, on a inversé les rôles, et on lui a...
Qu'a-t-il dit qui vous a
Alors, il a fait un exposé sur comment il voyait son œuvre. Alors, évidemment, ce n'était pas tout à fait la fin de sa carrière, puisqu'il a vécu encore...
Encore jusqu'en 1994.
20 ans.
C'est ça, tout
25
à fait.
Ans.
25 ans.
Mais enfin, il avait, son œuvre était quand même pas mal avancée. Il avait publié des tas de choses. Il avait publié notamment le fameux Mégalopolis, dont c'était jouable. Et donc, il a exposé comment il voyait son œuvre.
Ah oui.
Et alors, ce texte-là, nous l'avons retrouvé parce que je l'avais fait distribuer aux membres du jury de l'époque. Moi, depuis, je ne l'avais pas retrouvé, mais mon ami Pinchemel l'avait gardé et il me l'a passé là en 95 et je l'ai publié dans le livre.
Dans le livre.
Il y a 30 pages de Gottman dans ce livre. 30 pages de lui, qui sont les 30 pages qu'il avait rédigées pour justifier, pour sa soutenance et pour expliquer et justifier son œuvre.
Tout à fait remarquable.
Rédigé par lui, c'est un cas quand même assez unique.
Oui, oui, c'était une vision. Parce que ce n'est pas toujours facile d'avoir de faire
alors,
une synthèse.
Bon, au fond, il a mâché notre travail puisqu'il nous a offert lui-même la synthèse de sa propre œuvre. Vous voyez et voilà,
qu'est-ce que vous avez retenu de cette œuvre, justement
Eh bien, voilà, il a innové parce que je crois que c'est le géographe, avec un peu Pierre-Georges aussi, qui a eu le plus conscience du phénomène de l'urbanisation accélérée de l'humanité dans la seconde moitié du XXe siècle. Il a été le parmi les géographes le plus conscient de toutes les conséquences innombrables qu'allait entraîner cette urbanisation. Évidemment, il en avait eu les effets sous les yeux lorsqu'il a séjourné aux États-Unis pour la préparation Mégalopolis.
Et puis aussi le Japon.
Le Japon aussi, qu'il connaissait fort bien, l'Italie, la France, la Grande-Bretagne, le Brésil. Il connaissait tous les pays. Bon, mais surtout l'exemple américain. Évidemment. Bon, et alors, donc, c'est celui qui a été le plus conscient de l'urbanisation. Il a écrit aussi des articles assez remarquables sur les gratte-ciels américains et toutes les conséquences de la poussée des villes en hauteur.
Et il ne s'inquiétait pas du tout de la poussée des villes en hauteur.
Un peu, mais à l'époque, beaucoup moins qu'aujourd'hui. On était dans l'euphorie, l'enthousiasme devant cette puissance industrielle.
Et d'ailleurs, aujourd'hui, on s'en inquiète parce que c'est lié au septembre. Mais au fond, dans tous les pays du monde, il y a des tas de gratte-ciels qui continuent.
Oui, mais à l'époque, alors, également, il a beaucoup insisté sur la transformation des emplois urbains, soit ce qu'il appelait le quaternaire.
C'est lui
qui est l'inventeur du terme secteur quaternaire. Vous savez que Jean Fourastier, connu comme moi, avait
les Trente Glorieuses, avait
beaucoup expliqué l'évolution du monde par les trois secteurs primaire, secondaire, tertiaire et l'évolution de la nature et de l'importance quantitative de ces trois secteurs, le secteur primaire, l'agriculture industrielle, le secondaire, l'industriel et le tertiaire, le reste.
Bon. Tout à fait.
Et Gottman est le premier à avoir dit, mais dans ce secteur tertiaire, il est en train d'émerger un nouveau secteur, le secteur quaternaire.
Ah oui, donc c'est lui l'inventeur de cette expression.
Du secteur quaternaire, c'est-à-dire au sein du secteur tertiaire, tout ce qui est prospective, réflexion, coordination, recherche, innovation, prise de conscience de l'évolution future du monde, voyez-vous, toutes les conséquences innombrables que cela va avoir. Voyez, parce qu'évidemment, il avait eu sous les yeux pendant 10 ans, au moins les 10 ans où il a préparé Mégalopolis, il avait eu ça sous les yeux.
Quel matériau est-il ? Est-ce que vous vous souvenez ?
Ah ben d'abord l'observation, les rencontres, les discussions, les statistiques aussi quand même. Mais ce n'était pas un géographe quantitativiste. Bon, les statistiques, il les utilisait, mais enfin, il ne basait pas tout sur l'exploitation mathématique des statistiques, comme un certain nombre de géographes l'ont fait par la suite. Mais non. C'était un homme qui regardait, qui observait, qui essayait de comprendre, d'expliquer, d'avoir... Il avait le contact aussi, le contact humain avec l'homme de la rue aussi, et puis les grands décideurs.
Mais alors,
les grands décideurs avec lesquels il avait eu des entretiens, aussi bien aux États-Unis qu'en France ou ailleurs.
Il y a une question que je voudrais vous poser, cher Jean Bastier, cher Président. C'est entre Paris et Londres, comment voyait-il les deux métropoles ? Est-ce qu'il y avait une préférence de son côté, comme vraiment géographe de la ville, etc. Est-ce qu'il y avait une préférence ou est-ce qu'il voyait d'un côté ou de l'autre des faiblesses ? Parce qu'un jour, il vous a même, reproché d'être trop sévère avec les Parisiens et les Français.
C'est ça, parce que nous avons fait un colloque Paris-Londres.
Ah, voilà.
On avait organisé un colloque comparaison entre Paris et Londres. Il y a longtemps, ça. Il y a presque 40 ans, je crois. Bon, on avait fait un colloque Paris-Londres. Il était venu d'Oxford exprès pour assisté, parce que quand on l'invitait à Paris à l'école, il venait. D'ailleurs, Londres, Paris, c'est si près. Il n'avait aucun mal à venir. Il venait, il restait plusieurs jours, il participait à tous les colloques du début à la fin. C'était pas quelqu'un qui partait avant la fin. C'était un homme très consciencieux. S'il venait participer à une manifestation, il la suivait de bout en bout. Ouais, donc que très... de gens qui partent au milieu qui à la fin ne sont pas là, par exemple, pour entendre les conclusions. Donc lui, il restait. Alors, on avait fait un colloque sur la comparaison Paris-Londres à tous les points de vue. Hein? Non seulement urbanistique, industriel, circulation et les mentalités même.
On m'était hasardé
sur les mentalités différentes. Alors, moi qui suis ni psychologue ni sociologue, simple un pauvre géographe, j'avais essayé de comparer les mentalités des Anglais et des Français à travers l'histoire. Hein, vous voyez.
Oui. Bon, très intéressant.
Et je m'étais hasardé comme ça, mais sans aucune raison de le faire. Enfin, raison pour le faire à la place de autre. Bon. Mais il n'en avait pas de sociologue sous la main, ou je ne sais pas, dont je m'étais hasardé un peu à comparer les... Ben, je suis allé quand même à Londres un certain nombre de fois, en Grande-Bretagne, assez souvent, dont je pouvais me lancer dans une comparaison entre les Londoniens tels que j'avais cru les percevoir et les Parisiens. Et alors, j'avais dit que les Parisiens étaient plus indisciplinés, que sais-je, moi, vous voyez.
C'est vrai.
Le Parisien, c'était le Français, par excellence.
Oui, bien sûr.
Bon, bien que la France profonde, c'est pas Paris.
Non.
Bon. Et alors, j'avais dit, au contraire, un peu trop de bien des Londres. Parce qu'il y avait des Anglais qui étaient venus, je voulais pas être impoli vis-à-vis de nos invités étrangers, dont j'avais peut-être un peu trop exagéré en louant la mentalité britannique et en critiquant un peu la mentalité française. Et ça lui avait pas trop plu et il a réagi en défendant, alors qu'il habitait l'Angleterre et Oxford,
il
défendait les Français et moi je défendais les Anglais.
Comme voilà. Nous approchons un peu à la fin de notre entretien, est-ce que vous ne savez pas s'il y avait une préférence un peu pour l'une des deux villes, très sincèrement?
Ah, il adorait Paris. Il adorait Paris. Bon, oui, il venait à Paris aussi souvent qu'il le pouvait. Il avait un hôtel préféré qui était tout près de notre siège, là, et de Sciences Po, parce qu'il faisait des cours à Sciences Po. Et de la Sorbonne, c'était l'hôtel de l'Abbaye,
dans le 6e. Il y a une jolie petite mezzanine.
Jardin intérieur, et il descendait. Et alors, ce quartier du 6e, du 5e, il adorait ce quartier de la rive gauche. Hein.
Donc, voilà, au fond, en conclusion, c'est une conclusion évidemment très ouverte, mais ça, Jean Gottman, si francophile, si français, citoyen du monde, qui parle évidemment plusieurs langues, 4-5 langues, vous l'avez dit, un homme d'aujourd'hui et dont l'œuvre est vraiment une fenêtre ouverte sur le monde de la géographie et de la géographie urbaine.
Oui.
Et le livre qui restera, c'est vraiment pour vous celui que l'on a cité tout à l'heure.
Mégalopolis.
Oui. Mégalopolis.
Mégalopolis, donc, qui a été lu dans tous les pays du monde par la plupart des géographes. Rares sont les géographes qui n'ont pas lu Mégalopolis.
Ben, écoutez, sur cette belle parole, sur ce beau livre, œuvre majeure de Jean Gottman, je vous remercie beaucoup, cher président Jean Bastier de la Société de Géographie, pour votre dynamisme. Et n'oublions pas cette formule de Villiers dit là-dedans, l'homme se mesure à ce qu'il admire. Donc je crois qu'en admirant Jean Gottman, ce n'est pas un défaut, bien au contraire. Et je conclurai en disant aux auditeurs qui s'intéressent à ce personnage, je dois dire que vous m'avez fait découvrir, extrêmement passionnant, si vous voulez, cette revue, ce numéro spécial de la revue de géographie qui s'appelle « L'orbite de la géographie » de Jean Gottman. On peut se le procurer, bien sûr, à la Société de géographie. C'est vraiment, donc, pour une somme tout à fait correcte, qui est de 15 €, je me permets de le signaler là, je ne sais pas d'ailleurs si je peux le faire, mais avec grand plaisir. Donc, une somme tout à fait, enfin, c'est un ouvrage magnifique. Et je remercie mes auditeurs d'avoir écouté, avec, j'en suis sûr, un énorme plaisir, Jean Bastier, qui nous a parlé de son ami Jean Gottman. Je tiens à signaler à nos auditeurs que vous pouvez parfaitement télécharger cette émission dans notre médiathèque. Je vous remercie.